Mais on est content de poursuivre donc notre série dans l'épître de 2 Timothée, la dernière lettre de l'apôtre Paul avant sa mort. Il parle ouvertement d'avoir achevé la course à la fin du chapitre 4. Et donc nous voulons de nouveau voir ces derniers mots de la part de Paul, voir qu'est-ce qui compte pour lui lorsqu'il sait qu'il est bientôt à la fin, qu'est-ce qu'il veut communiquer. Donc que le Seigneur nous aide à comprendre cela une nouvelle fois. Alors aujourd'hui, nous sommes au chapitre 2 et nous sommes à partir du verset 22. Mais pour commencer, je veux faire allusion au verset 21 de ce chapitre 2, ce qu'on a vu la semaine dernière. Parce que je pense que vous serez d'accord avec moi que ce n'est jamais agréable lorsqu'on se rend compte que notre rôle dans une équipe, pour une tâche, ou dans une famille, ou lorsqu'on est au travail en travaillant avec d'autres collègues, lorsqu'on se rend compte que notre rôle à nous n'est pas super utile pour l'ensemble. Peut-être pour une équipe sportive, nous sommes sélectionnés dans un groupe en dernier. Et c'est un peu moche cela, n'est-ce pas, d'être le dernier à être sélectionné, car cela signifie, on le sait, que les autres estiment que je ne suis pas fort utile pour l'équipe. Ou lorsque des collègues sélectionnent d'autres autour d'eux pour des tâches principales d'un projet au travail, et ils nous demandent de faire quoi? De nous occuper des photocopies. OK, on comprend. C'est-à-dire, vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Ou lorsque la famille se met à une tâche collectivement et on nous met un peu à côté lorsqu'il s'agit d'une tâche importante, on n'est pas sélectionné. J'ai moi-même eu un peu ce frisson de ressenti aujourd'hui, cette semaine. J'ai essayé de voir avec mes sœurs et ma mère, s'ils avaient besoin de moi lorsque ma mère déménage dans 2 semaines. Et j'ai voulu voir si je pouvais y aller. Et pour finir, ma sœur m'a téléphoné, ma grande sœur, c'est elle le chef dans la famille. Et elle m'a téléphoné pour dire, non Steve, ça va aller, je pense qu'on n'a pas besoin de toi. Et évidemment, c'était bien pour la quarantaine, mais il y avait une toute petite partie de moi qui disait, pas utile, moi, dans cette famille. Donc je comprends si vous avez aussi fait preuve de ce genre de ressenti. Nous ressentons tous, je pense, le désir d'être utile, n'est-ce pas? D'avoir un rôle à jouer, d'être apprécié par les autres parmi lesquels on vit. Et Paul, je pense, se sert de ce désir dans cette lettre de 2 Timothée, car il dit au verset 21, « Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ces derniers, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. » Le maître, c'est qui? Dans le contexte, c'est le Seigneur Jésus-Christ, d'après le chapitre 1, verset 2. Et les disciples de Jésus, ce sont ses esclaves, nous dit ce texte. Verset 24 parle d'un esclave du Seigneur. Pourquoi cela? Ce n'est pas un terme péjoratif ici, d'appeler quelqu'un esclave. Non, c'est une façon de signifier que le disciple de Jésus-Christ appartient à Jésus-Christ. Nous sommes à lui et donc nous sommes à son service. Je comprends que ce n'est pas forcément le cas pour tous ceux qui écoutent ce message de loin ou de près. Peut-être vous vous demandez ce que cela signifie plutôt. Être un esclave de Jésus-Christ, avoir Jésus-Christ comme maître. Vous, dans un sens, vous nous observez. Et c'est très bien ainsi pour comprendre ce que cela signifie. Car il faut être conscient que Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, être un disciple de Jésus-Christ, ne se contente pas, lui, d'être juste un ami ou un entraîneur spirituel, ou une aide psychologique, ou un enseignant de la bonne morale. Non, il est Seigneur, il règne. Cela ne se voit pas lorsqu'on se promène dans la rue que Jésus règne. Mais c'est le cas, c'est vrai. On ne s'approche pas donc de le Christ, du Christ, le Seigneur, comme si c'est un pote. Oh, ça va? Oh oui, tu vas bien de ton côté, toi? Non. On s'approche de Jésus-Christ à genoux et on lui demande, que veux-tu de moi, Seigneur? Et donc, en tant que serviteur, esclave, c'est normal que le chrétien désire à être utile à son service, propre à toute œuvre bonne. C'est bien cela le but de ces instructions qui suivent, versets 22 à 26. Le contexte de ces instructions dans ces versets que nous voyons aujourd'hui, verset 16, c'est ceux et celles qui propagent au sein de l'Église à Éphèse, là où se trouve Timothée, des discours vides et profanateurs. De telles personnes qui progressent non pas dans la piété, mais dans l'impiété, nous dit l'apôtre. Et il présente donc un danger pour l'Église. Verset 17, leur parole range comme la gangrène. Au lieu d'être utiles au maître, ils sont plutôt destructeurs. Verset 18, ils renversent la foi de quelques-uns. Timothée, dit Paul, toi, verset 21, tu dois te purifier en se séparant de ces mauvais ouvriers et de leur façon de fonctionner. C'est ainsi que tu seras utile à ton maître, propre à toute œuvre bonne. Et dans les versets 22 à 26, donc il expose des qualités requises pour un tel ouvrier. Voici donc le but des instructions de Paul ici. Mais qui en a besoin? Qui en a besoin? La réponse est d'abord Timothée, bien sûr. Verset 22 commence avec des impératifs qui sont écrits à la deuxième personne du singulier. Toi, Timothée, dans ta capacité d'envoyé apostolique dans l'église à Éphèse, là où il y a d'autres soi-disant enseignants chrétiens, voici comment toi, tu dois te comporter. Et donc, par extension, ceci s'applique à tout responsable d'église, d'église locale, tous ceux qui exercent le ministère de la parole. Timothée, rappelons-nous du chapitre 2, verset 2, doit confier ce qu'il a appris de Paul à des gens dignes de confiance, capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Comment donc évaluer si quelqu'un est digne de confiance? Nos versets ici nous aident avec une telle évaluation de ces ouvriers. Qui voudrait-on encourager dans notre Église à progresser dans des responsabilités d'enseignement au sein de l'Église? Peut-être d'abord à une échelle plus humble, à l'école de dimanche, auprès des enfants, dans le groupe Wallouad, auprès des ados, dans un groupe de quartier ou dans un autre milieu. Qui aimerions-nous, en tant qu'Église, envoyer pour se former à un institut biblique ou pour servir le Seigneur en mission? Qui aimerions-nous encourager pour penser à un travail pastoral à plus long terme, à être ancien dans cette Église? Alors, ces qualités-ci nous offrent un bon point de repère. Si vous voulez, c'est un peu comme dans une grande usine pour des produits alimentaires. Là-dedans, il y a le département contrôle de qualité, n'est-ce pas? À un rythme régulier, ils ont la tâche, ces personnes dans ce département, de vérifier que le produit qui sera emballé et ensuite distribué pour être ensuite mis en vente dans des magasins soit conforme à une qualité requise pour un tel produit. Qu'il n'y ait pas de tâche s'il s'agit d'une pomme, que la forme soit conforme aux normes nécessaires pour pouvoir l'emballer correctement, que la température, s'il s'agit d'un vaccin, des conteneurs, soit correcte pour que le produit reste bon. Alors de même ici, Paul nous fournit de quelques critères pour faire un contrôle de qualité par rapport à ceux et celles qui exercent le ministère. Ceux et celles que nous voulons encourager à exercer le ministère au sein de l'Église. Ce type de contrôle de qualité, c'est la raison pour laquelle dans notre système, dans notre Église, de nommer les responsables d'Église, nous donnons l'occasion, confidentielle bien entendu, à nos membres d'exprimer des réserves éventuelles qu'ils auront au sujet des responsables proposés. C'est également la raison, lorsque nous accueillons de nouveaux membres dans notre Église, que nous laissons une période de 15 jours entre l'annonce d'une demande de membre et l'acceptation de cette demande de la part de l'Assemblée. Car nous réservons la tâche d'enseignement dans l'Église à tous les niveaux dans ce que nous faisons dans cette Église, à nos membres. Et donc, c'est important de pouvoir nous rappeler en tant que membres de ces qualités requises. Donc oui, ces qualités sont d'abord requises des responsables. Mais il y a également un autre sens par lequel ces qualités sont requises de nous tous. Mais, excusez-moi. Car ce qui est remarquable dans cette liste de qualités, versets 22 à verset 26, c'est qu'il n'y a rien de remarquable là-dedans. Poursuit, dit-il, à partir du verset 22, la justice, la foi, l'amour, la paix, ensuite être affable à tous, soyons prêts à supporter le mal, agir avec douceur. Il ne s'agit pas ici des dons remarquables, il s'agit des qualités qui sont ailleurs dans le Nouveau Testament mentionnées comme étant nécessaires pour tout chrétien. Il y a une exception, ça c'est vrai, verset 24, Paul parle d'être apte à l'enseignement, ça c'est vrai, cela est nécessaire pour des enseignants dans l'Église, des responsables, mais tout chrétien n'est pas appelé à enseigner. On reviendra à cette exception à la fin de cette prédication. Mais il suffit, je pense, dimanche de la Pentecôte, de nous rappeler du fruit de l'Esprit de Dieu, l'Esprit que le Seigneur a envoyé dans l'ère chrétienne qui habite en nous, selon 2 Timothée chapitre 1, verset 14, on apprend que l'Esprit Saint habite en nous. Et si cela est le cas, alors le fruit de l'Esprit doit être manifeste en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Premier repère donc pour un chrétien spirituel qui cherche à être spirituel, c'est que le fruit de l'Esprit soit manifeste en lui. Ce n'est pas réservé dans cette liste de qualités aux chrétiens du premier rang. Non, ces qualités sont nécessaires pour nous tous. Alors, lorsqu'on creuse un peu plus les qualités avec un œil sur les responsables comme Timothée, faisons attention de comprendre également que lorsque on pointe le doigt vers quelqu'un d'autre, les responsables dans cette église, bon, il y a trois doigts qui pointent vers moi-même. Cela nous rappelle, je pense, le critère fondamental de la Bible pour un responsable d'église. Ce n'est pas d'abord les dons de cette personne, les capacités intellectuelles ou son charisme, sa rhétorique, son humour même. Non, c'est quoi ? C'est qu'il s'agit qu'une telle personne soit un chrétien authentique, véritable, quelqu'un en qui l'Esprit Saint demeure, quelqu'un qui, comme tout chrétien, aime le Seigneur et qui aime son prochain comme lui-même. Nous devons tous, en tant que serviteurs de notre Maître, faire preuve de cela. Et donc, nous nous posons dans notre structure de ce message ce matin, la question suivante. Progressons-nous dans ces domaines évoqués dans ces versets 22 à 26. La maturité, la fraternité et ensuite le courage. D'abord la maturité, verset 22. Fuis les désirs de la jeunesse. Ce n'est pas que la jeunesse est mauvaise, bien sûr que non, mais que c'est lorsque nous sommes jeunes, nous sommes vite emballés par une idée ou par une passion. Je ne pense pas ici qu'il s'agit des désirs liés à la sexualité. Souvent, on pense que c'est le cas. Et bien sûr, ça peut être un problème chez un jeune, tout comme chez quelqu'un moins jeune. Mais ici, il s'agit plutôt d'un danger de la jeunesse, d'être souvent bien enthousiaste et zélé pour une cause, sans être accompagné de la sagesse que donne l'expérience dans la vie. D'être un peu trop vite noir et blanc dans l'analyse d'une situation, d'insister, si vous voulez, que si nous ne changeons pas notre politique d'église aujourd'hui, c'est une question ou une autre, alors nous, des chrétiens ici, nous ne sommes rien que des hypocrites. Peut-être vous connaissez-vous de tels jeunes. Bien sûr, il y a ce côté dynamique, courageux, et il faut admirer cela. Mais ces désirs de la jeunesse peuvent nous distraire de notre tâche principale en tant qu'Église. Et c'est cela qui provoque un esprit qui aime trop, selon le verset 23, hein, les débats extravagants et ineptes. Avoir une opinion trop clivante, surtout, c'est de nous éloigner de ce qui est important et édifiant. Il faut apprendre dans le ministère chrétien de ne pas être trop emballé par de telles choses. Il faut repousser une tendance de tout débattre, car il faut naître de telles choses, des querelles. Je pense que nous sommes d'accord de dire que cela, c'est le danger des réseaux sociaux, des chrétiens actifs sur les réseaux sociaux. Ça me donne ce que je n'avais pas auparavant, tout d'un coup une plateforme pour que moi, humble moi que je suis, j'ai une opinion publique sur tout et n'importe quoi. Et cela est très dangereux, les amis, car cela nous encourage dans des débats extravagants et ineptes. La majorité d'entre nous ne maîtrisons pas ce dont nous discutons. Mais nous nous réjouissons tout de même de nous exprimer publiquement. Ça chatouille un peu notre orgueil, je pense, n'est-ce pas? Il faut donc grandir, nous dit l'apôtre Paul, en maturité. Et lié à cela, il faut aussi grandir en fraternité. Car verset 24, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit au contraire être comment? Affable envers tous, apte à enseigner, prêt à supporter le mal. Pourquoi une telle attitude envers tous? Pourquoi ne pas avoir simplement nos propres acolytes autour de nous et de laisser de côté tous ceux qui ne rejoignent pas dans nos positionnements tranchants sur des questions secondaires? Pourquoi pas une fierté d'avoir raison et d'insister sur tout et n'importe quoi, que c'est moi le dirigeant dans cette Église? Car verset 23, le serviteur chrétien poursuit plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix. Comme devrait faire chaque personne qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Poursuivre ces qualités est un reflet de ce que Christ nous donne, ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le chrétien reçoit la justice imputée de Christ, sa justice, et non pas la nôtre. Nous recevons cela. Le chrétien bénéficie de la fidélité de Dieu à ses promesses. Le chrétien bénéficie de l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Le chrétien bénéficie de la paix avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et oui, ces bénédictions, eux, œuvre en nous pour produire en nous ces mêmes qualités dans nos relations les uns envers les autres. À un point où nous ne réclamons pas ce dont nous avons le droit. Nous sommes donc nous sommes exhortés à être prêts à supporter le mal, verset 24. À l'instar de Christ, lui, qui a supporté le mal. Cela signifie que je suis prêt de céder mon droit d'avoir le dernier mot, même si j'estime qu'un tel ou un tel ne devrait pas l'avoir. Cela signifie que je suis prêt à chercher le bien de l'autre, le positif dans ce que quelqu'un me dit, sans céder à la tentation d'interpréter tout selon ma propre grille d'expérience. Cela signifie que je fais distinction entre ce qui est primordial et secondaire, ce qui a une importance capitale, où il faut défendre la chose, et ce qui ne compte pas pour grand-chose. Il faut grandir, les amis, dans ces qualités de fraternité. Au lieu de chercher à se venger lorsqu'on se sent blessé, nous poursuivons la paix. Nous ne mettrons pas un commentaire en dessous d'une vidéo YouTube ou après un tweet qu'on n'a pas apprécié ou sur une page Facebook de quelqu'un d'autre qui cherche à me mettre en avant. Rien qu'hier, Benjamin m'a montré un exemple de cela sur sa chaîne YouTube. Et c'est usant de devoir faire face à cela. Nous ne ferons pas suivre un tweet ou une photo ou un post Facebook si en se faisant cela contribue à ce que d'autres soient entraînés dans un débat inutilement. Si nous pensons devoir défendre à tout point de vue notre propre réputation. Ce dernier temps, dans le milieu du « moi je viens personnellement », nous avons affaire à des gens qui sont super sympas de vive voix. Mais lorsqu'ils s'expriment par écrit dans un espace public, ils se sentent libres de briser le 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Que nous fassions attention de ce que nous disons en public par rapport aux autres. Peut-être à ce stade, on coche la tête comme ça et on dit « bah oui, les jeunes, effectivement, ils ont besoin de ces conseils ». Mais rappelons-nous que Paul écrit ici à Timothée, et Timothée, c'est un ministre compétent, expérimenté. Ce n'est pas un tout jeune dans le ministère, Timothée. Et c'est à lui, à Timothée, son plus proche collaborateur, en qui il confie la succession, il passe le flambeau. Et pourtant, il répète ces choses à Timothée. Timothée avait besoin d'entendre ceci, comme vous et moi. Soyons donc soucieux de ce danger d'un manque de fraternité. Mais il ne faut pas faire amalgame entre affable envers tous et quelqu'un qui ne sait pas défendre les convictions centrales de la foi. Car oui, troisième qualité, c'est le courage. Qu'il corrige, verset 25, les contradicteurs. Oui, il faut les corriger. Il ne faut pas confondre donc la fraternité avec un laxisme quant à la défense de la foi. Non, un dirigeant chrétien est appelé, premièrement, à exposer le contenu de la foi chrétienne et ensuite de la défendre. Il faut le faire, car rappelons-nous, chapitre 1, le ministre chrétien doit garder, verset 14, les belles choses qui lui ont été confiées, la saine parole de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'est pas libre de modifier le message, il doit garder ce message-là. C'est vrai, l'expression de ce message aura des spécificités selon une culture ou une autre. On a vu ça le jeudi soir, ce dernier temps. Mais le message que nous prêchons en tant qu'Église chrétienne, la foi en Christ, seule par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la repentance, ce message-là ne change pas. Que nous soyons dans cette Église ou que nous soyons à Séoul, là où il y a la famille Le Prince pour le moment. Donc, pour ce faire, il faut la connaissance et ensuite le courage de corriger les contradicteurs. Car les contradicteurs, il y en a. Et corriger de telles personnes nous met toujours face à des critiques. On nous accusera d'un manque d'amour, un manque de compréhension, un manque de flexibilité. Adrien, la semaine passée, a mentionné les noms de quelques prédicateurs de l'évangile de la prospérité. Est-ce que cela faisait preuve d'un manque d'amour envers de telles personnes? Ben pour certains, oui. Mais il ne faut pas être naïf ici. Selon le verset 26, le diable lui-même est actif derrière la scène. Il se réjouit donc, le diable, d'une église qui dit que ce n'est pas faux grave qu'un enseignant à l'école de dimanche a des doutes concernant la résurrection de Jésus-Christ. Le diable se réjouit qu'un dirigeant d'un groupe de quartier pense qu'on peut affirmer que l'avortement est compatible avec un Dieu d'amour. Parce que Dieu, pour finir, il est sympa, non? Le diable se réjouit d'une mono pour les adolescents dans notre église qui dit que Dieu accepte tous parce qu'il est amour. Et donc, il n'y a pas besoin pour un musulman sincère et de se convertir vers Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que cette mono est aussi très hospitalière. Le diable se réjouit qu'il n'y a pas besoin qu'un catholique convaincu et pratiquant croit dans la justification par la foi seule. Car cette personne chante avec une belle voix et nous fournit avec des repas pour différentes personnes dans le besoin. Vous voyez à quel point le diable œuvre derrière la scène pour semer le doute. Mais Paul dit à Timothée qu'il faut corriger les contradicteurs. Mais comment faut-il le faire? Avec douceur. Non pas avec un esprit qui cherche à condamner l'autre, qui cherche à porter l'étiquette « Me voici, capitaine de la vérité, fier de mon courage, de la clarté de mes convictions. » Non, il faut une approche qui fait le maximum pour que l'autre comprenne qu'on ne se croit pas être supérieur de l'autre, que nous nous reconnaissons nous-mêmes faibles, en besoin de la grâce, que nous soulevons de telles choses, non pas pour se vanter, mais pour aider les uns et les autres à voir le danger qu'ils courent. Car nous agissons ainsi dans la perspective, nous dit ces versets, de gagner la personne au cas où Dieu la donnerait de changer radicalement pour parvenir à la connaissance de la vérité. Cela implique un travail relationnel auprès des personnes. Il ne suffit pas de simplement condamner une fausse croyance ou pratique publiquement ici à travers la chair. Non, cela nécessite un travail relationnel pour pouvoir faire comprendre à une telle personne à quel point nous cherchons le bien. Que le rejet d'une croyance ou une pratique ne signifie pas pour autant le rejet de la personne. Je pense qu'il faut prendre cela de plus en plus en compte aujourd'hui, où beaucoup dans notre société actuelle commencent à réclamer une identité dans un choix de vie qui va à l'encontre de la vision chrétienne. La culture dans laquelle nous vivons nous apprend, au-dessus de toute autre chose, d'être fiers de ce que nous sommes, découvrir le vrai toi. C'est ça le message de notre société. J'écoutais rien que ce matin une chanson francophone. J'étais sur Spotify et ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que les jeunes écoutent aujourd'hui. Et donc, je suis allé sur les chansons francophones le plus écoutées sur Spotify sur le mois de mai de cette année-ci. Et je tombe sur un chant qui s'appelle « Le temps » de Taïk. Je ne sais même pas si je prononce bien le nom de ce chanteur, Taïk, mais quelqu'un peut me corriger plus tard. Mais il raconte une histoire d'amour brisé, d'amertume, que cela engendre qu'une fille l'a quitté. Et il chante que le temps l'a réparé et que l'autre, maintenant, avec le temps qui passe, veut revenir vers lui. Et voici ce qu'il dit. avec toi, j'avais comme l'impression de devoir supplier pour quelque chose que tu me dois. Non. Et maintenant, toi, tu veux enfin m'entendre. Oh, nana. Ouh, on s'est arrêté. Tu veux reprendre. Mais ne gaspille pas mon temps. Non, 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 non. Non, non, évidemment, je ne connais pas la mélodie. Mais qu'est-ce que ce chant nous dit? Une telle personne a trouvé son identité, lui. Il définit son identité, personne d'autre. Et donc, dans une telle situation, un tel contexte, lorsque nous nous attachons notre identité à une pratique, à une croyance, en porte-à-faux avec la Bible, quand j'entends, pour la première fois peut-être, que la Bible est en porte-à-faux avec cette identité que je réclame, alors je prends ça naturellement comme une attaque, non pas juste à mes croyances, mais à ma personne, à qui je suis. Donc de croire que des chrétiens me rejettent, que Dieu me rejette. Et donc je pense que dans l'Église, nous devons encore plus travailler pour que ces choses soient dites avec douceur, que l'investissement auprès des individus dans notre Église soit conséquent. Voilà, il faut progresser donc, nous dit Paul à Timothée, en maturité, en fraternité et en courage. Mais j'aimerais que nous terminions, avec la seule qualité qui n'est pas requise pour tout chrétien, apte à enseigner, que nous voyons au verset 24, que l'ouvrier du Seigneur doit au contraire être affable envers tous, apte à enseigner, prêt à supporter le mal. Parce que vous voyez la façon que Dieu prévoit pour qu'une église et des chrétiens donc, soient réformés pour la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple. C'est à travers l'enseignement. Le rôle de Timothée, après tout, n'était pas, à ce stade en tout cas, de se séparer de cette église à Éphèse, là où il y avait des mauvais enseignants, et de prendre avec lui tous les vrais croyants pour fonder la vraie et fidèle Église de Christ ailleurs. Non, sa tâche à lui, c'était d'enseigner humblement, régulièrement, fidèlement. Mais que faut-il pour que cet enseignement soit bien reçu? Faut-il du charisme, de l'autorité à ma personne? Faut-il une structure nickel avec une projection des points de notre enseignement que vous avez vu, je pense, sur l'écran? Faut-il à tout prix une méthode quelconque? Certes, certaines méthodes, certaines astuces, certaines façons de faire sont plus efficaces que d'autres. Nous avons tous à apprendre là-dedans. Nous visons après tout la clarté dans notre enseignement. Mais notons que le contexte autour de « apte à enseigner » place l'accent ailleurs. Place l'accent sur notre comportement en tant qu'enseignant, affable envers tous, prêt à supporter le mal, qui corrige avec douceur. Oui, pour ceux et celles que nous voulons enseigner dans nos familles, auprès de nos enfants, ici le dimanche, lors du rassemblement chrétien, dans des maisons, un, avec d'autres personnes après le culte, lorsqu'on discute, peu importe notre attitude envers de telles personnes, des personnes parfois, nous dit l'apôtre Paul, ce n'est pas moi qui le dis, pénibles et difficiles, erronées, notre attitude doit être bienveillante. Car si nous ne sommes rien qu'autoritaires, rien que durs par rapport aux failles qu'il y a parmi des brebis, alors oui, des brebis nous craindront, ça c'est clair, mais ils auront du mal à recevoir notre enseignement, car ils nous ne respecteront pas. Pour enseigner qui que ce soit, notre comportement doit être tel qu'ils reçoivent ce qu'on leur dit. Tout comme Dieu a œuvré en nous par sa grâce, avec patience, Dieu peut également œuvrer dans d'autres lorsque nous les enseignons, sans que nous avons besoin de crier, de nous irriter, d'avoir le dernier mot. Car c'est lui, Dieu, qui est à l'œuvre par son esprit, à travers sa parole. Vous savez, l'homme, laissé à lui-même, a tendance à crier, assiduité lorsqu'il se sent frustré, lorsqu'il voit son incapacité à lui de changer quelque chose dans la famille, dans la société ou autre. Que fait-il? Il augmente alors le volume. Et quand ça ne marche pas, il fuit. Car il a du mal à faire face à ses propres limites à lui. Mais l'homme chrétien, un enseignant chrétien, lui, il comprend ses propres limites. Et il se réjouit que nous avons affaire à un Dieu qui œuvre en nous par sa puissance, par son esprit. Et donc, il s'appuie pas sur ses moyens à lui, mais sur les moyens que Dieu pourvoit, sa parole. Non pas la parole irritée de l'homme, mais la parole éternelle de Dieu, pour voir le changement que nous sommes incapables d'effectuer nous-mêmes. Prions, si vous voulez bien, chers amis, pour de tels enseignants, de tels responsables sur tous les niveaux de notre Église locale. Prions pour revenir là où nous avons commencé, pour des chrétiens, verset 21, consacrés, utiles à leur maître, propres à toute œuvre bonne. Prions. Oui, Seigneur, nous voyons ce que tu nous dis dans ces versets par rapport aux qualités qu'il faut au sein de l'Église, parmi tous ceux qui enseignent au sein d'une Église à différents niveaux. Et nous voulons tout d'abord exprimer notre regret de ne pas avoir toujours à la hauteur, mais également d'exprimer notre joie de savoir que l'efficacité dans le ministère ne dépend pas ultimement de nous et de nos dons et de notre personne, mais dépend de toi, de l'œuvre de ton esprit au sein de ton Église. Et nous te prions donc de nous aider de nouveau à nous revêtir de ces différentes qualités, à être ceux qui sont prêts à grandir en maturité, en fraternité, en courage, oui aussi, mais de faire tout cela à l'instar de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et son Esprit qui œuvre en nous. Glorifie, Seigneur, ton nom, nous te prions, dans notre Église, dans nos vies, pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen.